Bonjour à tous.
Bonjour.
Bonsoir. Salut.
Bonjour.
C'est la nouvelle émission du Canu Info et c'est notre première ce soir.
Donc là aujourd'hui on est 6 autour de la table, on va essayer de commencer cette année par vous monter une petite émission. Donc on va commencer par l'actualité internationale. Donc un des gros facteurs majeurs récents c'est sur le Gabon. Il y a une sorte de guerre civile qui est en train de redémarrer entre le président sortant et l'opposant qui a officiellement, en tout cas à l'heure actuelle, a perdu. Donc entre Jean Ping et notre ami qui est l'ancien dictateur Ali Bongo, depuis il est la deuxième génération de dictateurs dans le pays. Donc le Gabon, pour faire court, c'est un pays très peu peuplé, avec seulement 1,6 million de personnes, mais un des pays les plus riches de l'Afrique, avec notamment énormément de ressources minières, et qui a intéressé la France et l'Europe depuis des années. Donc un des grands acteurs de la France-Afrique. Et par rapport à ça, donc justement, il y a samedi une grande manifestation à Paris réunissant un millier de Gabonais en France et qui demandait justement à la France de venir en aide à Jean Ping, qui est lui issu, fait partie en fait du Sérail, un ancien ministre d'État qui a aussi présidé l'Assemblée Générale des Nations Unies. Et dans cette manifestation, donc, il demandait à la France d'intervenir, et la France a gentiment répondu que la France-Afrique n'existait plus et qu'on ne ferait rien.
Plus près de chez nous, en Allemagne, le parti d'extrême droite AfD a percé dans la région de Mecklembourg-Poméranie occidentale. Donc ce parti, donc en français Alternatif pour l'Allemagne, a devancé le parti d'Angela Merkel dans cette région lors des élections régionales qui se sont tenues donc, ce dimanche 4 septembre. Si le SPD, donc le parti sociodémocrate, garde la région avec 30% des voix, l'AfD dépasse maintenant le CDU, donc le parti d'Angela Merkel, avec 21% des voix contre 19% pour le CDU. Ce parti conservateur a été créé il y a 3 ans, donc en 2013, sur des bases telles que le retour, la sortie de l'euro et le retour au Deutschmark. Mais il accorde désormais une place centrale aux questions identitaires et sécuritaires et se positionne contre Merkel dans une politique anti-réfugiés. Si le poids électoral de cette région est assez faible au niveau national, puisqu'elle ne concentre que 2% des électeurs, ce résultat est en fait symbolique, puisque c'est la circonscription d'Angela Merkel, et donc elle perd son importance là-bas.
Voilà, alors maintenant, au niveau national, on va vous parler de la mobilisation qu'il y a eu à Calais. Alors c'était les commerçants, les chauffeurs de poids lourds et les agriculteurs qui ont crié leur colère face aux migrants qui, selon eux, cause en fait des grosses pertes économiques dans la région et ça rend la ville moins attractive et ils ne peuvent pas travailler correctement. Donc il y a eu 2 opérations escargots qui ont commencé ce matin, l'une depuis Dunkerque, l'autre depuis Outreau, et ils sont rendus au port de Calais avec... Des manifestants à pied qui les ont suivis. Il y avait donc à environ 300 manifestants et une quarantaine de camions. Et en fin d'après-midi, il y a une délégation de routiers qui a rencontré la sous-préfecture, mais ils sont restés 1h30 et on ne sait pas encore ce que ça a donné. Et ces manifestants demandent donc le démantèlement rapide de la jungle. Il y a vendredi dernier, Cazeneuve est venu à Calais justement pour en parler. Mais comme il n'a pas donné de date précise, les manifestants ont maintenu leur manifestation parce que ça ne leur convenait pas. Et Cazeneuve quand même a proposé qu'il y ait 200 policiers qui viennent renforcer les équipes de police sur place. Il faut rappeler que fin mars, il y avait déjà eu un démantèlement de la partie sud de la jungle, mettant en quelque sorte à la rue plus de 3500 migrants. Et qu'il y a différents camps qui ont été évacués, la plus récemment dans les villes de Dieppe, Cherbourg, Caen, et qu'il y a une procédure d'expulsion sur le camp de Noranfonte. Et pour autant, malgré les expulsions de camps, il y a toujours autant de migrants. Et par contre, aucune remise en cause de la politique et des relations avec le Royaume-Uni n'est prévue.
Et ce qu'il faut voir aussi, c'est vraiment un traitement médiatique sur cette question-là. Enfin, depuis une semaine que cette manifestation se prépare, enfin, notamment sur les grandes radios nationales, on a une vision, on entend des petits témoignages d'agriculteurs qui se plaignent qu'on écrase leurs patates, mais on se limite à ça. Il y a eu très peu d'émissions de traitement de fond et on ne s'est jamais vraiment posé la question de pourquoi ces migrants étaient là et quelles solutions on pouvait apporter autres que les redispatcher dans toute la France.
Et puis sinon, autre nouvelle, on a des Chinois qui manifestent à Paris. Alors c'est chose un peu inhabituelle. Vous savez sans doute qu'en Chine, c'est pas quelque chose de courant de manifester, même si ça existe aujourd'hui un peu plus qu'avant. Et donc, on a eu le 7 août un Chinois qui est mort à Aubervilliers suite à une agression. Et vous n'êtes pas sans savoir qu'à Paris, il y a quand même pas mal de racisme, on va dire, anti-chinois. On entend souvent dans les rues de Paris des gens insulter les Chinois gratuitement. En tout cas, moi, je l'ai déjà entendu. Et ce dimanche 4 septembre, eh ben, les Chinois ont pris la rue. Et donc, selon la police, ils étaient 15 500. Et puis, selon eux-mêmes, ils étaient 50 000. Et voilà. Et puis, on pouvait entendre des slogans apparemment comme « Liberté, égalité, fraternité et sécurité ». Bon, alors, je ne sais pas si les Chinois ont tout compris. Mais bon, ce qu'on aimerait bien, nous, c'est qu'il n'y ait pas ce mot « sécurité », justement, qui fasse partie de cette devise et qui, pourtant, est hyper présent aujourd'hui en France, quoi. Donc, eux, ce qu'ils demandent vraiment, c'est qu'il y ait plus de caméras, plus de surveillance, etc., pour qu'ils soient moins sujets à ce type d'agression. Et on pouvait entendre aussi lutter contre les préjugés de la part des Chinois. Et ça, c'était bon, par rapport à tout ce racisme qu'il peut y avoir vis-à-vis de nos amis de Chine. Et j'aimerais juste leur dire « Zhongguozhen, woman, any man
». Donc, pour continuer sur, au niveau national et dans cette recrudescence et dans le délire sécuritaire, on a une information qu'on a vue passer localement, mais qui nous concerne au niveau national, c'est que les assurances, en fait, débarquent sur les réseaux sociaux. Donc, c'est quelque chose qui est déjà extrêmement courant dans le monde anglo-saxon, où de nombreux inspecteurs et puis policiers privés payés par les assurances, en fait, passent leur temps à scruter les médias sociaux. Et c'est dans le principe, a pour but de lutter contre une fraude en fait à l'assurance qui dépasserait les 2,5 milliards. Donc dans ce contexte en fait de flicage généralisé qui est à scruter vos réseaux sociaux pour vérifier que vous n'avez pas fait de fausses déclarations d'assurance. Enfin, à l'heure actuelle, outre-Manche, en fait, un statut Facebook, un tweet, une photo sur Instagram ou une vidéo YouTube peuvent se transformer en preuve dans un procès. C'est ainsi qu'on a découvert parfois des clients qui affirmaient avoir un accident avec un inconnu et qui, en fait, cet inconnu était ami avec eux sur Facebook. Ou un homme qui a demandé des indemnisations pour des blessures, qui a alors posté des photos de lui, en fait, sur Twitter en train de parcourir un semi-marathon. Donc, l'information qu'il faut retenir de tout ça, donc, c'est que, ami fraudeur ou non, faites attention à ce que vous mettez sur les réseaux sociaux. Pensez à passer vos comptes, ça soit Facebook, Twitter et privé, parce que toutes vos informations sur Internet sont totalement libres et n'importe qui peut y avoir accès. Et ça peut être extrêmement dangereux pour vous, votre vie privée et puis votre vie professionnelle.
Le procureur de la République, François Molins, a annoncé un durcissement considérable de la politique pénale en matière de terrorisme. Il a identifié l'affaiblissement de l'État islamique sur le front irako-syrien comme un facteur favorisant les retours d'Isis Syrie et donc, selon lui, un risque d'attentat accru. Certaines infractions qui étaient auparavant considérées comme des délits seront désormais considérées comme des crimes, ce qui fait passer le temps de prison potentiel de 10 ans maximum à 20 à 30 ans. Le but, en fait, de cette mesure, ce serait de garder éloignés les condamnés de la société et, du coup, les garder en prison en attendant.
Pendant 5 ans ?
Pendant 20 à 30 ans.
Pendant 20 à 30 ans.
Sachant que la plupart des autres pays européens mettent en place des centres, justement, de déradicalisation, ben, nous, en France, on préfère les enfermer pendant 30 ans.
Oui, sachant qu'en plus, la prison, c'est très bien pour déradicaliser les gens.
Oui, c'est connu, ça fait beaucoup de bien, oui.
Et après, vu que ce procureur, il est quand même pas mal connu, je pense qu'il faudrait faire attention que ce genre de loi ne serve pas à interner tout simplement les gens qui ne seraient pas forcément des terroristes, mais feraient d'autres choses un peu révolutionnaires. Et c'est à qui, là ? C'est à Camille et Arnaud pour nous parler de la voiture du futur.
Oui,
en
la
local.
Voiture du futur. Pour continuer, bientôt conclure sur la question du local, on a vu apparaître la voiturette du futur dans le superbe quartier de Confluence, quartier donc à la pointe de la high-tech et des nouvelles technologies, donc de la ville intelligente. S'il est vrai, c'est quand même une preuve, il faut quand même le souligner, c'est une première mondiale. Donc c'est la première fois qu'est mis en place de façon autonome une voiture, donc une voiture qui pourra circuler, en fait une sorte de petit bus qui circulera de façon entièrement autonome, enfin sans chauffeur, en tout cas à terme. En attendant, il y a plus de personnel à l'intérieur qui le contrôle que dans un bus normal, mais bon, ça, en attendant, ce bus a pour but d'être totalement autonome et circulera gratuitement entre 7h30 et 19h entre le centre commercial Confluence et le bout des quais. Donc j'aimerais bien savoir à qui ça va bien pouvoir servir, mais c'est pas trop grave. C'est, en tout cas, y a, des gens pourront aller faire leurs courses à Confluence tranquillement. Les risques d'accident sont quand même assez faibles, puisqu'il y a ce véhicule ne rencontrera personne d'autre sur sa route, vu qu'il a un parcours entièrement tracé et dédié. Normalement, aucun autre véhicule est censé s'y trouver. Donc on verra bien, mais pour l'instant, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est dans la grande joie des nouvelles technologies, c'est qu'à l'heure actuelle, l'État a obligé l'ensemble des personnes qui prenaient ce bus une fois à l'intérieur de donner leur nom, leur prénom et une adresse mail. Qui va être très pratique, notamment pour les vieilles dames qui vont faire leurs courses et les vieilles personnes en général. Je sens que ça va être très motivé par ce genre de truc et toutes les personnes qui n'ont aucune envie de donner leur information. Et si, en plus, pour d'autres raisons de sécurité, on aimerait bien connaître lesquelles, la société Navly enregistre en fait en permanence l'ambiance sonore et peut visualiser des images vidéo prises à bord des navettes. Donc à partir de là, n'importe quelle personne a officiellement le droit de demander son enregistrement. Donc si vous voulez faire les clowns dans ces navettes et puis vous filmer et puis demander l'enregistrement, bah, écoutez, amusez-vous bien. Et en plus, pour pouvoir se marrer, ces véhicules ne seront absolument pas accessibles aux fauteuils roulants. Donc en fait, à part les personnes valides qui sont prêts à donner leur nom, leur prénom, une adresse mail et qui ont envie de faire le gudu devant la caméra, bah, cette voiture va pas se servir alors à grand chose.
Et eux, ils vont pouvoir s'en servir de ces vidéos ?
Ah bah ça a pour but, oui, après, de faire une amélioration du rond, normalement, enfin, présente ça comme une amélioration de la qualité du service.
C'est gratuit ?
C'est gratuit, heureusement. On se fait ficher gratuitement, on n'a même pas obligé de payer pour se faire ficher, c'est bien. La société avance.
Il le progrès. Puis la bonne nouvelle, c'est que d'ici 2020, les constructeurs automobiles vont vraiment miser sur ces voitures autonomes pour inonder le marché.
Du coup, ces petites voitures vont peut-être réduire les besoins de chauffeurs. Toujours dans le même esprit de réduction des effectifs, je vais vous parler des collèges. Localement, il y a pas mal de collèges qui sont en train de se mobiliser. Donc, il n'y a pas eu de rentrée scolaire au collège Henri Barbusse à Vaux-en-Velin le 1er et le 2 septembre. En fait, dans ce collège, qui est un collège REP+, donc Refondation de l'éducation prioritaire, c'est quand même un des collèges les plus défavorisés de France, hein. Et il y a un gros problème d'augmentation des effectifs dans les classes. Il y avait 4 classes de plus de 5e, des classes de 5e qui avaient plus de 25 élèves. Donc, le personnel, soutenu par les parents d'élèves, s'est mobilisé jeudi, jour de rentrée. Ils ont été reçus en audience au rectorat et il y a eu un blocage. Donc la grève a été reconduite le vendredi. Et vendredi, c'est aujourd'hui qu'il y a eu une audience à nouveau au rectorat. Donc il y a des ouvertures de canettes dans le studio, c'est cool. Donc l'inspecteur d'académie a reçu les personnels et les parents d'élèves qui étaient mobilisés du collège Henri Barbusse. Et donc ils ont obtenu qu'il n'y ait pas plus de... qu'il y ait 3 classes qui comprennent 25 élèves et qu'il n'y ait pas d'autres classes de plus de 24 élèves. Voilà. Donc les cours ont repris aujourd'hui. Alors il y a un deuxième collège par contre aujourd'hui qui s'est mis en grève, c'est le collège Victor Grignard à Lyon 8e, qui est dans le quartier de Mermoz. On est encore sur un problème d'augmentation des effectifs dans les classes et pas assez de personnel en face. Donc eux, ils demandent la création d'un poste d'un deuxième CPE, un conseiller professionnel d'éducation. Pédagogique, pardon.
Ouais,
j'ai quitté le collège il y a trop longtemps. Ah et puis que l'assistante sociale passe à temps plein puisqu'elle est à temps partiel et qu'il y a beaucoup, beaucoup d'élèves. Donc voilà. Donc, ils demandent en fait qu'on reconnaisse tout simplement les spécificités de leur collège qui sont dans des endroits qui sont compliqués. Donc, c'est également un collège Fondation de l'éducation prioritaire. Et alors, le troisième collège qui se mobilise et qui fait un appel à une grève demain, c'est le collège Aimé Césaire à Vaux-en-Velin, qui est aussi un collège en REP+, qui a également des problèmes d'augmentation d'effectifs dans les classes. C'est un collège dans lequel il y a eu pas mal de mobilisation depuis un an. Le personnel a été reçu 3 fois au cours d'une année. Il demande notamment la création de postes d'assistant d'éducation. Donc voilà, à suivre les mobilisations dans les collèges, sachant qu'on va en parler peut-être un peu plus avec la rentrée sociale. Il y a les syndicats, l'éducation nationale qui font un appel à la grève dans les collèges pour le 8 septembre, je crois. Mais on va en parler. Voilà. Donc, ouais. Je laisse la parole à PM.
Allez, à mon tour. Alors, en fait, vous êtes au courant qu'il y a eu quand même 4 mois de super lutte dans toute la France. Et pendant cette lutte, avec une amie, Maureen, avec qui j'ai une association qui s'appelle Tirantia, où il y a d'autres membres aussi, on avait décidé de filmer la lutte en prenant bien soin de faire attention à protéger les personnes, parce qu'on a vu que ça a posé quand même pas mal de problèmes de filmer, etc. Et on a pris beaucoup, beaucoup de sons. Et comme on est à la radio aujourd'hui, on s'est dit qu'on allait vous passer du son. Et alors, pour la petite info, c'est que il s'est avéré que le 18 mai, il y avait un rassemblement de prévu. Et il y avait un second rassemblement officiel totalement prévu, qui était le rassemblement de la police nationale, etc. Et on est allé faire un petit tour là-bas pour leur poser des questions. Et ce qu'on a souhaité vous montrer aujourd'hui, enfin vous faire entendre aujourd'hui, pardon, j'ai l'habitude de montrer des images non hégémoniques. ce qu'on a souhaité vous faire entendre aujourd'hui, en fait, c'est finalement le croisement de ces paroles de flics et finalement les sons qu'on pouvait entendre sur le terrain, ce que les gens disaient, etc., etc. On vous laisse apprécier. Vous en avez pour une petite quinzaine de minutes.
Genre de petits slogans sympathiques. Non, par contre, vraiment, il faudrait changer un truc dans ces manifestations. C'est les slogans un peu neuneux, un peu gentils, bien pensants, là. Manu, t'es foutu. Il faut être beaucoup plus virulent, beaucoup plus haineux, quoi. Il faut transmettre la haine, la colère, parce que là, bon, c'est trop gentil. Voilà.
Donc je me présente quand même.
Oui, allez-y.
Donc, je suis Valérie Mourier du syndicat Alliance Police Nationale Isère. Donc on s'est déplacé aujourd'hui à Lyon pour montrer notre solidarité. Okay. Pour nous à Grenoble, faire un rassemblement, c'était pas possible, sachant que le contexte grenoblois est quand même particulier. On a des groupes d'anarchistes qui sont très présents.
Donc je suis le secrétaire zonal syndicat Alliance SNAPATI. Je représente les personnels administratifs, techniques et scientifiques sur la zone sud-est, le Rhône-Alpes-Auvergne. Aujourd'hui, nous avons tenu à être présents en signe de solidarité vis-à-vis de nos collègues policiers sur le terrain.
Pourquoi tu étais dans la rue aujourd'hui ?
Parce que c'est intolérable qu'on passe des lois contre les travailleurs. On est la première force du pays. Et encore une fois, on se fait arnaquer, bel et bien arnaquer.
Alors je suis dans la rue pour plusieurs raisons. Première raison, je suis révolté parce que je suis salarié, je suis cheminot. Je suis révolté par les conditions et l'attaque de cette loi qui est quand même d'une ampleur sans précédent.
Un recul social sans précédent avec des jeunes qui vont se retrouver sur le marché du travail à travailler 60 heures avec des salaires de misère. Voilà. Moi, c'est pour ça, moi je travaille plus, mais c'est pour ça que je suis dans la rue. J'ai des enfants, c'est vrai. En plus, quand on voit ces forces de l'ordre là, qui font une répression terrible.
Et qu'est-ce que vous pensez de ces jeunes qui sont aussi révoltés et qui
ils ont raison de ne pas bouger. Moi, quand j'avais leur âge, on a fait des manifs. Bon, des fois, c'est un peu violent, mais en proportion, il me semblait qu'il y avait moins de flics. Quoi. Pourtant, des fois, ça cognait, mais là, c'est... ça me fait mal au bide quoi, de voir autant de flics par rapport à la passivité des jeunes qui sont là.
Moi, je m'appelle Alexis, je suis responsable de l'association étudiante qui s'appelle l'UNI, une association étudiante de droite. Je suis responsable sur Lyon, moi, et je suis venu aujourd'hui soutenir la police face aux agressions perpétuelles dont ils sont victimes depuis quelques semaines avec les manifs, notamment avec les manifs contre la loi travail. Il y a eu notamment une affiche de la CGT assez honteuse qui disait que les violences étaient que policières, alors que je suis désolé, mais si on va sur le terrain et qu'on voit dans les manifestations, on se rend compte que les violences, elles ne sont pas policières. C'est bien les manifestants qui commencent à caillasser et les policiers qui sont obligés de riposter et d'évacuer notamment la place Bellecour.
C'est un rassemblement pour montrer vraiment notre ras-le-bol et puis cette stigmatisation qui existe concernant les forces de l'ordre. Ouais. Je pense que toutes les vidéos qui ont circulé sur Internet, on a très bien vu que souvent on montrait une partie de la vidéo, mais on ne montrait pas que nos collègues pendant les manifestations, ils se retrouvent avec des insultes constantes, des jets de projectiles. Enfin, c'est quand même très violent, on a atteint un stade qui est très violent. Dernièrement à Grenoble, on a eu trois blessés qui ont reçu des cocktails Molotov. On a saisi un caddie, c'est pour vous dire, un caddie de supermarché plein de projectiles. Il fallait voir ce qu'il y avait dedans. C'était impressionnant, des œufs remplis de peinture, des extincteurs remplis de peinture, des pétards, des feux d'artifice, des mortiers, enfin...
Des mortiers.
Vous savez, ça fait comme des gros pétards. Donc c'est assez impressionnant. Et puis donc il faut allumer et donc ça projette. C'est vraiment pour casser du flic, comme on dit. Hein. Ils étaient venus de toute façon pour en découdre avec la police.
D'accord. Et alors ce rassemblement, il est pour quoi exactement?
Bah, c'est contre la haine anti-flic, comme vous le savez et que vous le voyez au quotidien. Tous les rassemblements au niveau national et notamment dans certains endroits comme Nantes et Rennes et Paris, pour ne pas les citer, à chaque fois, ça part en pugilat. Je veux dire, tout est défiloir contre les policiers, contre les forces de l'ordre. À un moment donné, il faut savoir dire stop. Et tout ce qui se passe, c'est inadmissible. À un moment donné, il faut que ça s'arrête, sinon ça va mal finir.
Je pense qu'il faut différencier. Il y a une petite partie des manifestants qui restent pacifiques et calmes, notamment le service d'ordre de la CGT ou les gens qui ont des autocollants, des affiches et des drapeaux des syndicats, parce qu'eux ne peuvent pas se mettre grâce aux journalistes, etc. Ils peuvent pas se mettre en évidence, en caillassant, etc. Mais moi, je sais que je me rends compte qu'il y a la dernière manifestation qui a eu lieu hier, on s'est bien rendu compte qu'arrivé sur la place Bellecour, de nombreux syndicalistes ont enlevé leurs chasubles, ont enlevé leurs autocollants, ont enlevé leurs drapeaux et se sont mêlés au groupe d'énergumènes qui commençaient un petit peu à chercher les forces de l'ordre. Heureusement, c'est pas les plus loin, mais voilà, je pense que c'est pas la majorité des gens, c'est pas la globalité des gens, mais je pense vraiment que c'est devenu une majorité malheureusement et que ça décrédibilise complètement le mouvement. Je trouve ça assez noble de défendre une cause comme ils le font, même si c'est pas forcément ce que je pense. Je trouve ça assez noble qu'ils le font, mais le problème c'est que maintenant la majorité des gens qui manifestent contre le travail, ce sont des casseurs. Et du coup, ça décrédibilise complètement le mouvement et ça n'a plus aucun intérêt
de manifester. Toi, du coup, tu étais présent juste à la place Bellecour ou tu as fait toute la manifestation?
Non, du tout. Moi, je ne manifeste pas contre le travail, mais j'étais juste à l'arrivée de la place Bellecour parce que j'habite juste à côté et j'allais prendre le métro était fermé. Du coup, je suis resté 20 minutes pour regarder ce qui se passait. Et voilà, moi, je suis actuellement à la position de l'Uni Lyon sur la question, c'est demander à la préfecture d'interdire les prochains rassemblements contre le travail.
Et vous l'analysez comment en fait cette situation? Parce que du coup d'un côté il y a des manifestants qui balancent des trucs sur les flics, de l'autre côté il y a les policiers qui ont aussi il y a des flashballs quand même, il y a des comment on appelle ça, des...
On a les lanceurs de grenades, on a tout ce qu'il faut, mais ça
comment on peut l'analyser ça à votre avis cette situation-là ?
L'analyser, c'est pas la première fois qu'on a des manifestations qui dégénèrent. On a eu l'époque où il y avait le CPE, c'était aussi parti un peu en sucette entre la police et les manifestants. Le problème, c'est que c'est un petit groupe, c'est vraiment un petit groupe d'extrême gauche, qui manifeste leur mécontentement, et ça a toujours été comme ça, contre la police, contre la République, contre tout. C'est pas forcément ciblé contre l'individu. Voilà, c'est nous, on représente la police, on représente la République. Donc forcément, on est la première cible. Voilà, ils peuvent pas aller contre notre gouvernement, aller directement cibler. Donc.
Rendez-vous,
vous êtes cernés.
Rendez-vous,
vous êtes cernés.
Rendez-vous,
vous êtes cernés.
Rendez-vous,
vous êtes cernés.
C'est dans la réponse. Ah, canon aussi, regarde. Olé, bâtard.
Ça, tu vois, on se sent plus sur notre terrain.
Ouais.
On est là, on nous attaque. C'est malheureusement ça. Après, nous, on riposte, mais il faut voir aussi comment on riposte. Hein. Il faut attendre des heures et des heures pour s'en prendre plein la figure, pour avoir au moins le droit d'utiliser les lacrymos. Et encore, puisqu'il y a eu ordre du ministre de ne pas utiliser que ce soit les flashballs ou les lance-grenades de peur de blesser quelqu'un. Mais il faut voir les pavés qui nous balancent de l'autre côté.
Ouais.
Donc après, nous, ce qu'on demande, c'est qu'il y ait une réponse à ces attaques-là.
On peut une réponse politique, vous voulez dire ?
Voilà, une réponse politique. On ne peut pas rester sans réponse face aux attaques que les policiers subissent. Il y a débordement de notre côté, c'est pas pardonnable, de toute façon on l'a toujours dit, hein, mais il faut voir que c'est très minime par rapport à ce qui se passe et qu'on a plus un professionnalisme de notre côté que des bavures comme on peut l'entendre. Voilà, on a quand même des gens formés, les collègues ne font pas n'importe quoi. Quand on leur dit vous tirez au flashball, ils savent très bien comment il faut tirer pour pas blesser. C'est pour intimider.
C'est quand les manifestants commencent à casser des vitrines dans le cortège, forcément la BAC va arriver et va bloquer la vitrine pour éviter qu'il y ait des dégradations. Et là, à ce moment-là, les gens vont dire que c'est des violences policières. Moi, je suis venu aujourd'hui apporter mon soutien à la police parce que je pense qu'ils ont besoin de se sentir soutenus, de sentir que la France est derrière eux. Et c'est pas les 100 jeunes qui caillassent à longueur de journée les forces de l'ordre qui représentent la jeunesse. Je pense qu'aujourd'hui, la jeunesse, elle est mobilisée pour les forces de l'ordre et les soutiens. Et donc voilà, je suis venu aujourd'hui pour leur apporter mon soutien. Et je pense que c'est important de leur montrer qu'on est là parce que, notamment avec l'état d'urgence, ils sont vraiment en ce moment très mobilisés. Ils ont des grosses journées, des grosses semaines, des gros mois. Ils ont pas beaucoup de vacances. Ils en peuvent plus. Clairement, j'ai discuté avec plusieurs policiers depuis tout à l'heure. Ils ont vraiment marre. Ils sont vraiment fatigués. Et je pense que c'est important de leur apporter un soutien, même si c'est symbolique, c'est juste moralement. Voilà, ça va pas changer la France. Ça va pas faire arrêter les caillassages. Mais voilà, je pense d'être là aujourd'hui, c'est important.
Mais il faut bien savoir que nous, dans notre principe et dans notre formation, on est là pour défendre les citoyens, défendre les commerçants, parce qu'il faut dire qu'ils ont morflé aussi. Donc voilà, je pense, mais effectivement, on a une fatigue et c'est normal, c'est humain. On n'est pas un nombre d'effectifs énorme, donc il faut pallier tous les jours. Avec le peu d'effectifs qu'on a, il faut être là, il faut être présent. Et forcément, on fait appel des fois à des unités qui n'ont pas l'habitude d'être sur le terrain. On a à peu près émargé à 200 personnes qui étaient quand même hostiles à la manifestation, qui n'étaient pas là pour manifester contre la loi du travail. D'ailleurs, il faut attendre les slogans qui sont lancés par ces jeunes, hein, qui commencent à dire « pas de police »,« État sans policiers »,« sans justice ». Enfin bon, ils ne sont pas là pour la loi du travail. Voilà. Donc il y a quand même des groupes importants qui se sont formés contre plus l'État, la police et tout ce qui se passe, la République.
Tiens-moi tout, t'es anti-fasciste. Tiens-moi tout.
Et après, effectivement, il y a les manifs, elles se font avec les cortèges encadrés correctement. De toute façon, une manifestation, il faut la déclarer. Donc, il faut demander à la préfecture. Donc, si le cortège est là, c'est en marge qu'effectivement, il y a toujours des groupes un peu difficiles à canaliser.
Vous pensez quoi ? Vous pensez que les gens peuvent manifester
Tout à fait. Vous avez entièrement raison. Les citoyens peuvent manifester. Mais manifester, c'est un droit. Donc il me semble qu'en France, nous avons des droits et des devoirs. Donc à un moment donné, il ne faut pas que la manifestation soit un prétexte pour casser des vitrines, pour insulter, pour frapper et limite pour tuer du flic. Donc à un moment donné, il faut savoir dire stop. Sinon, ça va mal finir.
Ouais, mais alors jusqu'à présent, il n'y a pas eu de flics tués.
Pas tués, mais des collègues blessés au quotidien, tous les jours, dans l'exercice de leur mission, oui. Donc c'est ce qu'on appelle des rébellions, des diffamations, voilà, au quotidien. Donc voilà, nous sommes là pour protéger les personnes et les biens. Donc heureusement qu'il y a la police, parce que sans la police, c'est plus la démocratie, c'est l'anarchie.
Je pense que la préfecture doit prendre ses responsabilités et interdire les prochains rassemblements contre le travail.
Bon, c'est un peu autoritaire quand même, parce qu'on est dans un état de droit et légalement parlant, c'est quand même interdit d'interdire une manifestation.
Ah non, légalement, c'est pas interdit d'interdire une manifestation.
Bah, si elle est déposée en préfecture, qu'elle est négociée,
ils sont pas obligés, d'autoriser, surtout qu'en ce moment...
Ils sont pas obligés d'autoriser à cause de l'état d'urgence.
Voilà,
mais
notamment, on est en ce moment en état d'urgence et je pense que c'est pas normal que... on est obligé de mobiliser des centaines et des centaines de policiers et de forces de l'ordre pour faire du babysitting contre l'extrême gauche, alors que il y a les cellules terroristes qui sont en train de se monter partout en France, et les cellules djihadistes, etc. Et je pense que c'est pas leur but premier, c'est pas de garder des lycéens ou des étudiants qui viennent pour caresser les forces de l'ordre et qui savent même pas expliquer ce que c'est le travail, parce que personne ne l'a lu dans le rassemblement, et ça je pense qu'on le lit pas assez. Alors ils ont écouté Caroline Dehaas à la radio, ils vont dire oui, cette loi elle nous précarise, elle va nous faire perdre de l'argent, on aura moins de travail, et au final on pourra être viré plus facilement, mais c'est pas ça la loi de travail. Je pense que vraiment qu'ils la lisent. Moi même moi qui en ai lu qu'une partie, je suis incapable d'expliquer vraiment ce que c'est, parce que aujourd'hui les rassemblements n'ont plus d'être contre le travail, de toute façon elle est passée, le gouvernement ne reviendra pas dessus. Après...
Ah, légalement parlant, en fait, elle n'est pas totalement passée. Hein. Si je me permets de te contredire, en fait, elle doit passer au Sénat et après elle doit retourner encore à l'Assemblée.
Oui, mais à la limite, ils réutilisent le 49-3 et c'est pas.
Toi, tu penses que le 49-3 c'est une bonne chose ?
Non, du tout. Moi, je pense que c'est. Non, je pense que, bah, comme disait Hollande à l'époque, je pense que c'est un déni de démocratie. Ouais.
Eh bien, on espère que vous avez apprécié ce petit reportage. Du coup, c'était un peu une rétrospective des 4 mois de lutte. Et on pourrait même mettre l'été dedans, parce qu'il s'est passé plein de choses aussi pendant l'été. Et voilà. Alors, vous aviez 3 petits personnages principaux. Vous aviez un policier, une policière, donc une policière de Grenoble. Vous aviez aussi un représentant de l'UNI. Et tous les 3 donnaient leur avis, finalement, sur les manifestations, de leur point de vue, etc. Et avec une mise en parallèle, finalement, de ce que nous, on a vécu. Donc on espère que les prochaines se feront dans la joie et la bonne humeur de la même manière. Donc, voilà, avec autant de feux d'artifice, d'œufs de peinture, de bombardements, etc., de grenades de désencerclement,
de coups de tonfa.
Ouais, voilà.
De lacrymo.
Ouais. Bon. Et en tout cas, c'était donc une petite production Tiantia, l'assaut de Maureen, Jojo, PM et puis tout le reste.
Voilà. Fait sa pub. on peut enchaîner pour parler un petit peu des Nuits Debout et de l'actu, un peu de ce qui s'est passé sur l'été et de ce qui se passe à la rentrée. Et d'ailleurs, je trouve que le petit reportage audio qu'on vient d'écouter fait pas mal écho à un petit film qui a été projeté je crois ce week-end, hier, à Paris, sur la place de la République. Puisque sur Paris, ils ont repris les Nuits Debout. Un reportage qui s'appelle « Alors, c'est qui les casseurs ?» qui est pas très long et qui est pas mal à conseiller. Bon, en gros, cet été, les rassemblements sur la place publique ont été un peu suspendus. Par contre, il y a pas mal de participants des Nuits Debout de pas mal de villes qui se sont déplacés sur les différents événements, mobilisations militantes de l'été, et notamment sur les trucs un peu écolos. Je pense à la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, de Bure. Il y a aussi eu pas mal de participants des Nuits Debout de différentes villes sur le camp climat d'ANVCOP21, Alternativa et les Amis de la Terre. Donc voilà, il y a eu des petites connexions comme ça qui ont été faites dans différents événements militants de l'été avec des participants de Nuit Debout. Il y a pas mal de gens aussi qui ont organisé des marches. Je pense à des marcheurs des Nuits Debout de Marseille qui sont montés à Lyon en juillet. Il y a eu des trajets à vélo d'organiser aussi pour aller rencontrer d'autres participants de Nuit Debout d'autres villes. L'idée était, et ça continue, hein, de créer des liens entre les participants des différentes Nuits Debout de différentes villes pour éventuellement se coordonner et avoir des actions plus coordonnées. Voilà. Donc, sur la rentrée, là, à Paris, le 31 août, il y a les occupants qui ont repris la place de la République. Donc, je crois que ça a été maintenu sur tout le long du week-end, puisqu'il y a eu, enfin, il y a eu des commissions, des débats, toute l'organisation de Nuit Debout qui a un peu repris sur Paris. Le 3, c'était samedi, je crois. Ouais, donc samedi, à Rennes, il y a eu un banquet d'organisé. Il y a pas mal de villes qui sont en train de reprendre des Nuits Debout. Le 4, à Grenoble aussi, il y a eu hier donc quelque chose. Enfin, un appel en tout cas à la Nuit Debout. Moi, je peux vous dire, je suis originaire du Limousin, qu'à Tulle. Il y a eu une Nuit Debout samedi. Et bon, à Lyon, il n'y a pas eu de Nuit Debout encore de réorganiser sur la place Guichard. En revanche, il y a eu une assemblée générale de lutte avec bien 200 personnes quand même jeudi soir à la Bourse du Travail. Donc ça bouge, et il me semble qu'il y a un appel à une nouvelle Nuit Debout qui est en train de se lancer en lien avec la manifestation du 15. Donc il y a des choses qui se trament, donc ceux que ça intéresse, ils peuvent suivre. À mon avis, le mieux, c'est les réseaux sociaux, ça reste Facebook, pour savoir un peu ce qui se passe sur les Nuits Debout des différentes villes. Voilà.
Et puis, il y a plein de manifestations qui se préparent et on a une petite liste là à vous donner si jamais ça vous intéresse. Alors, pour les gens qui travailleraient par hasard à SFR ou qui auraient un portable affilié à SFR, vous avez une manifestation le 6. Il faut savoir que SFR avec Bouygues Télécom sont les premières entreprises françaises à avoir appliqué la loi travail. Donc, en gros, il y a eu énormément de suppressions de postes à SFR notamment, et SFR connaît des petits problèmes en fait d'organisation actuellement, et on virait des milliers de personnes, plein de manque à gagner pour eux, mais surtout pour les travailleurs, une bonne occasion d'aller manifester. Donc le 6 septembre, ça sera à Bellecour, ou je sais pas, il faut que vous vous renseigniez sur les réseaux sociaux. En tout cas, vous aurez une manif des employés SFR. Vous avez aussi le 6 septembre un procès qui va s'ouvrir à Saint-Étienne, au tribunal de Saint-Étienne. Vous pourrez trouver des infos sur numéro 0, le site de Saint-Étienne, enfin de l'actualité un peu rebelle de Saint-Étienne. Et voilà, alors Martin est accusé d'avoir blessé 7 policiers. Alors moi, je félicite Martin, c'est quand même un beau tableau de chasse, 7 policiers. Et voilà, il est, en gros, c'est quelqu'un qui est en colère et déterminé, qui n'a aucun passé judiciaire, et il avait juste à un moment donné un ras-le-bol, je pense. Et on espère que son procès aura une issue favorable, mais on a vu un peu à Lyon que c'était pas toujours le cas et que parfois on prenait des peines très chères pour très très peu. Voilà, pour de la rébellion, comme nous disait notre ami. Voilà, le 6, alors oui, SFR, juste pour préciser, c'est 6 septembre, rendez-vous 10h, place Bellecour. Voilà. Alors c'est à qui derrière ? C'est à Arnaud qui va nous parler.
Donc on va vous parler du 8 septembre maintenant. Donc le 8 septembre, il y a deux événements qui ont lieu le même jour. Et on peut espérer dans enfin une logique, une continuité de la logique de la convergence des luttes, que les gens se rencontrent. Donc on a deux grèves prévues. Donc il y en a une première qui est aussi une grève, enfin les deux sont des grèves nationales. La première a lieu pour l'avenir du travail social. Donc, je lis un des communiqués qu'on a pu trouver. L'autoritarisme, le mépris manifesté par la ministre de l'Éducation qui a négligé. Non, ça, oui, c'est pas grave. C'est pas grave. Ça, c'est le deuxième. C'est le deuxième.
La ministre a négligé. Qu'est-ce qu'elle a négligé?
Oui, enfin, les ministres ont négligé, là, le débat n'est pas là, mais c'est, la question, c'est sur quoi? Donc, il y a deux choses. Ils ont négligé le travail social. Donc, les travailleurs sociaux, en fait, au niveau national, se mettent en grève pour une revalorisation des statuts, pour. Un reclassement des assistants sociaux et éducateurs spécialisés, éducateurs jeunes enfants et conseillers en catégorie A de la fonction publique, donc avec des meilleures conventions collectives. Un véritable déroulement en carrière en catégorie A pour les conseillers et éducateurs sociaux. La définition de politique sociale à hauteur des besoins des populations, quel que soit leur lieu d'habitation. Donc des moyens humains en personnel diplômé dans l'ensemble des établissements et services médico-sociaux. Le refus des recours aux appels à projets et le maintien des conventions pluriannuelles par les collectivités territoriales pour financer les associations, l'arrêt de l'expérimentation des contrats à impact social, la défense et l'amélioration des collectivités de nos secteurs. Donc, dans cette même logique, en fait, il y a des liens. C'est l'ensemble, en fait, des collèges sont appelés pour une grève dans l'éducation nationale. Donc appelé de son côté aussi par un autre intersyndical, et donc pour des problèmes en fait assez similaires qui se recoupent, donc pour en fait c'est contre la réforme du collège, mais aussi pour l'amélioration des conditions de travail des personnels, et qui touche notamment ce qu'on a pu voir dans les deux collèges lyonnais qui sont déjà en grève sur la question des assistantes sociales, des CPE. Et là, donc l'ensemble de ces questions se cristallise en fait par cette grève contre la réforme du collège, donc qui aura lieu elle aussi le 8 septembre et qui se déroulera dans l'ensemble des collèges, notamment Elsa Triolet qui en tout cas a annoncé qu'il y aura un mouvement, et puis dans d'autres aussi on espère.
Spéciale dédicace à Elsa Triolet et à notre copain qui travaille là-bas. Ah, c'est à moi. Eh ben, en fait, moi, j'allais juste vous donner une info qui est que le 9 septembre, vous avez encore une manifestation, donc ça s'enchaîne, hein, et c'est la manifestation des précaires. Alors bon, j'ai pas plus d'infos que ça à vous donner, je vous laisse chercher, et puis de toute façon, on vous en reparlera, ou d'autres Canu Info vous en reparleront.
Alors, pour continuer, le 13 septembre, il y a un préavis de grève qui a été déposé dans les établissements psychiatriques de la région Rhône-Alpes. Le préavis de grève est déposé entre 10h et 14h. Et il y aura des distributions de tracts, ils vont accrocher des banderoles, ils vont installer des tentes devant les établissements. Donc si vous voulez les soutenir et aller voir ce qui se passe, vous pouvez y aller. Et donc, ceci, c'est pour signifier le manque de moyens qu'il y a dans la psychiatrie et les hôpitaux.
Toujours sur les manifs, le jeudi 15 septembre, il y aura la 13e de journée de mobilisation contre la loi travail. Donc un appel des syndicats pour une manifestation nationale. Les revendications sont donc l'abrogation de la loi travail, mais les organisations syndicales gardent aussi en tête le cas du contrat première embauche, donc le CPE, qui avait été promulgué mais non appliqué. Donc on espère que ça pourrait aussi arriver. Donc à Lyon, le rendez-vous sera à 11h à la manufacture des tabacs, donc le 15 septembre, et on va aller vers la place Bellecour.
Oui, moi je vais vous parler d'un appel à mobilisation le 18 septembre contre l'A45. Donc en fait c'est à Mornant, dimanche 18 à partir de 11h, où on sera, pour ceux qui viendront, accueillis dans une ferme pour essayer de mettre en place des actions contre ce projet d'A45. Cette fameuse autoroute entre Saint-Étienne et Lyon qui mobilise pas mal, notamment les personnes qui veulent défendre le foncier agricole.
Et puis on pourrait préciser que c'est un peu Vauquiez, notre président de région, en fait, qui souhaite un peu cette autoroute. Et alors qu'en fait, il existe déjà plus ou moins une autoroute,
ouais.
Et qu'elle est encore une fois fait partie des grands travaux inutiles.
Ouais, carrément. Alors, t'as vraiment raison de reparler de ce qui se passe avec la région, la nouvelle région Auvergne-Rhône-Alpes, présidée par notre cher Laurent Wauquiez. Parce que cette A45, quand même, c'est pas forcément de la compétence des régions, d'ailleurs, les autoroutes. Mais ce président de région et tout son exécutif a décidé d'y mettre il me semble, 140 millions. Une somme énorme. C'est une autoroute quand même, la 45, qui va coûter 1,2 milliard d'euros. Alors que l'autoroute qui existe pourrait être réaménagée, ce qui coûterait un peu moins cher. Parce qu'il y a des problèmes sur l'autoroute qui existe, c'est la 47. Et ouais, la région met 130 millions, un truc comme ça. Alors qu'elle n'est pas forcément obligée. Mais il y tient quand même, Laurent, à son A45.
Et ben, il a envie de rentrer plus vite chez lui, je pense, non? Voilà. Et puis en plus, on aimait bien la petite balade sur la 47, il y avait plein de radars tout le long. C'est dommage, franchement.
Non, mais il y a de gros débats, il y a eu de grosses guerres d'études sur le réaménagement de ces deux autoroutes. Donc voilà, en tout cas, le 18, n'hésitez pas à aller à Mornant pour essayer de parler de tout ça et de voir quoi faire. Voilà.
Voilà, alors tous ces rendez-vous parce qu'on revient de vacances et on retrouve notre colère. Moi, l'année dernière, je m'appelle Élise. By the way, et moi l'année dernière, j'ai bien monté en colère au fur et à mesure de l'année. Et je ne savais pas très bien comment utiliser cette colère. Voilà, j'ai bourlingué dans les différentes nuits debout et manifestations. Et en fait, au bout d'un moment, j'ai décidé de monter un cœur d'habitants en colère. Et qu'on puisse aller dire notre colère en fait dans la rue, dans divers endroits. En choisissant des textes et en s'amusant en même temps avec cette colère. Et du coup, je vous propose en deux parties. La première partie, un montage sonore où je suis allée à la rencontre d'habitants pour leur demander contre quoi ils étaient en colère et qu'est-ce que ça voulait dire pour eux. C'était le week-end de la fête nationale et c'était sur le Maza Grand événement, qui est un événement qui est fait que par des habitants entièrement bénévoles sur le 7e arrondissement de Lyon, sur la place Mazagran. Donc on va d'abord écouter ça et après on vous proposera avec la toute nouvelle équipe du Canu Info du lundi de vous dire nos colères de manière polyphonique. Surprise. Alors attendez, je gère la transition.
Non, c'est là.
Ah bah alors je suis peut-être tout le temps
que j'intériorise trop.
C'est une sinusoïde, hein, le changement d'humeur. Hein. Mais ouais, c'est vrai que la colère, j'essaie de relativiser. Bien sûr, ça intervient. La tristesse, la colère, ça peut être un peu aussi similaire, mais trop d'amour. Mais ou, en tout cas, un amour réel, pas trop d'amour, il n'y a jamais trop d'amour. Mais, en tout cas, un amour réel qui est. Ça peut être une question de point de vue aussi, la colère.
Avec le sentiment d'injustice ou la colère, la dépression, genre là, après toi, sentiment de colère. Moi, je pensais plus au sentiment d'injustice. Ouais, je sais pas, après, il y a des colères personnelles, intimes.
Bah, souvent, je suis colère, et je pleure même.
Par de la tristesse, de la peine. Donc pas trop de la colère en fait. Ouais, c'est ça, une espèce de bouillonnement, gros bouillon intérieur de plein de trucs.
Et pour moi la colère elle est souvent associée à l'environnement et à une incapacité à pouvoir faire changer les choses. Mais il y a certaines colères où ça nous concerne nous d'abord, enfin on est en colère contre soi-même.
Ah oui, moi j'aime bien être en colère parfois. Ah oui, parce que je mets un point d'honneur à ne pas faire de ma vie une colère.
On peut se rendre compte aussi que tout ce qui nous rend en colère nous rend plus fort, ce qui ne nous fait pas nous rend plus fort, et que la colère a lieu d'être à partir du moment où
pour ça en fait. C'est important pour moi qu'il y ait des endroits pour ça, comme là, c'est un endroit pour ça. pour pouvoir parler de sa colère. Parce que pour moi, la colère, c'est quelque chose qui est utile, mais qui est aussi très, qui peut contaminer les gens. Et donc, je pense qu'il faut faire attention à où est-ce qu'on se met en colère.
Je crois que le truc qui me met vraiment en colère, c'est l'injustice. L'injustice et un peu l'orgueil aussi. C'est un truc qui me met en colère.
Et je pense que à ça, il y a besoin aussi de poser à un moment donné quelque chose de plus corporel, de plus viscéral, qui témoigne un peu de la rage qu'on porte, qu'on a tous en nous quand. Voilà, je pense qu'on est tous traversés par ça, par l'envie d'en finir avec ce monde.
La France n'est pas un problème, la France est la solution. Une France de la justice où l'argent sera remis à sa place, qui est celle d'un serviteur et non d'un maître. Dans cette bataille qui s'engage, je vais vous dire qui est mon adversaire. Mon véritable adversaire, c'est le monde de la finance.
La colère est une très bonne chose en cela que, quand on est en colère, à défaut de savoir ce que l'on veut, on sait exactement ce que l'on ne veut pas.
Les sangliers sont lâchés, je répète, les sangliers sont lâchés.
On va changer les règles du jeu.
Nous vous proposons humblement de rouvrir la question révolutionnaire. Il ne s'agit pas de pérorer sur la catastrophe du présent ni de démontrer scientifiquement l'inévitable effondrement du capitalisme. Nous ne tenons pas à spéculer sur l'imminence ou pas de l'insurrection. Elle est notre point de départ. Nous partons de ce qu'elle ouvre et non de ce qu'elle vient clore.
Place à la poésie, homme traqué. Donnez-lui un bol de riz, un verre d'eau, un sourire. Ouvrez les portes sur ce no man's land où les chiens n'ont plus de muselière, les chevaux de licole, ni les hommes de salaire. Les plus beaux chants sont des chants de revendication.
Asservis, humiliés, les femmes achetées, vendues, violées. Depuis la nuit des temps, les femmes, nous sommes le continent noir. Debout, femmes esclaves, et brisons nos entraves. Debout, debout, debout,
debout. Ce chant vous a été chanté au féminin. Messieurs, ne vous offusquez pas, vous avez tous une femme en vous.
Parce qu'on a la rage, on restera debout quoi qu'il arrive. Idoménie, Grèce, 18 avril 2016. Une des choses qui me frappe le plus chez tous ces réfugiés bloqués depuis des mois à la frontière gréco-macédonienne, c'est de les voir, lentement, perdre la raison.
Sigi, l'Europe et son concert d'égoïsme. Sigi, l'Europe, oui, si elle abandonne l'esprit pour embrasser la peur.
Nous travaillons actuellement pour l'Europe.
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 Article 35 de la Déclaration des droits de l'homme. Quand le gouvernement viole les droits du peuple, l'insurrection est pour le peuple et pour chaque portion du peuple le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs.
On va changer les règles du jeu.
La lucha es como un círculo. Se puede empezar en cualquier punto, pero nunca termina.
Mais elle ne se termine jamais.
Pour en finir, je répondrai à quelques questions qu'assurément vous devez vous poser. Savons-nous où nous allons ? Oui. Savons-nous ce qui nous attend ? Oui. Cela en vaut-il la peine ? Oui. Qui peut donc répondre oui aux trois questions posées plus haut et ne rien faire sans sentir quelque chose se déchirer au plus profond ?
Un salut et une fleur pour cette tendre fureur. Je crois qu'elle les mérite.
Devant une grand-mère, on reste toujours un enfant qui a mal en s'éloignant. Au revoir, grand-mère. J'arrive. Je finis. Je commence.
L'intelligence d'un discours dépend surtout de celui qui l'écoute.
Et ben voilà, c'était la première émission de cette toute nouvelle équipe du Canu Info du lundi. Youhou !
Ouais, ben on était contents, non ?
Oui, très contents.
Content d'être avec vous.
On espère que ça vous a plu, à vous aussi, autant qu'à nous en tout cas. Et puis dans tous les cas, on se dit à très bientôt.
Peut-être dans 2 semaines.
Peut-être avant.
À bientôt.
On ne sait
pas.
Bientôt.
Enfin,
ciao.
On espère qu'ils nous laisseront l'antenne une nouvelle fois.
Allez, bye.
On laisse la place au métalleux.